Bonjour à tous et bon sabbat. J'aimerais commencer le sermon aujourd'hui en lisant un extrait d'un article paru dans le journal Guardian le 5 mars 2015, intitulé « Le monde étrange des présences ressenties ». Et je cite « Le 20 mai 1916, Ernest Shackleton, Frank Woolsey et Tom Crean ont éteint Stromness, une station ballonnaire sur le côté nord de la Géorgie du Sud. Pour préciser, la Géorgie du Sud est une petite île dans l'océan Atlantique Sud, un peu au nord de l'Antarctique. Il avait marché pendant 36 heures. Dans des conditions dangereuses pour tenter d'atteindre les secours pour le reste de leur groupe. Trois de leurs membres d'équipage étaient coincés du côté sud de l'île. Les autres s'étant échoués sur l'île de l'éléphant. Pour atteindre la station ballonnaire, les trois hommes ont dû traverser l'intérieur montagneux de l'île avec seulement une corde et juste un petit outil pour déboire. Et dans un voyage que peu avaient à tenter auparavant ou depuis. En atteignant Stromness, ils ont réussi à sauver tous les hommes qui restaient de cette expédition impériale transantarctique infortunée. Ils n'ont pas parlé à l'époque, mais dans les semaines plus tard, les trois hommes ont fait été d'une expérience troublante au cours de leur périple. Le sentiment qu'ils avaient à souvent quatre personnes et non pas trois. Trois hommes, mais il y a un sens qu'il y avait quatre. Le quatrième entre guillemets, qui les accompagnait, avait la présence silencieuse d'une personne réelle, quelqu'un qui marchait avec eux à leur côté, jusqu'à la station ballonnaire, mais pas plus loin. M. Shackleton a prendre un était profondément affecté par cette expérience, mais ils n'en parlera que très peu au cours des années qui suivront. Considérant que c'était quelque chose dont, et ce shit dont on ne devrait jamais parler. Le reste de l'article décrit dans une perspective séculaire ce que nous, dans l'Église de Dieu, appellerons le monde angélique. Dans le cas de M. Shackleton, il s'agissait d'une présence protectrice, un gardien qui les soutenait sur leur chemin. Les anges et un monde spirituel parallèle fonctionnant à côté de notre on fait de l'objet de discussions depuis que les êtres humains sont en vie, bien sûr. Le concept d'ange gardien ou d'une présence ressentie dans les moments de détresse a été attribué au nom séculier maintenant. Il est appelé le facteur de troisième homme. Ce terme a été utilisé pour la première fois par l'écrivain T.S. Eliot dans un article sur l'expérience de Shackleton et plus tard par M. John Gregaire, qui était un explorateur et un auteur qui a étudié ce phénomène pendant des années. Il prétend que c'est quelque chose dans notre cerveau qui criait l'expérience. Cependant, M. Greger admet que les recherches ne sont pas concluantes. Voilà. La Bible est remplie de descriptions d'anges et de leur rôle en tant que messagers, protecteurs, défenseurs et instruments de la volonté de Dieu dans les affaires de l'humanité. En grandissant, j'ai entendu des histoires d'événements miraculeux qui, semble-t-il, ne pouvaient être attribués qu'à l'intervention d'un ange. Bien que je n'ai pas d'histoire dramatique à raconter personnellement, j'ai eu le sentiment qu'il y a eu de nombreuses fois où j'ai été protégé quand même dans mon propre manque de sagesse, par un ange, j'imagine. Pourtant, en réfléchissant à mon cheminement spirituel, je ne pense pas avoir souvent pensé aux anges et leur rôle. En fait, je pense que j'ai probablement été influencé de façon négative par les histoires, l'art et les idées populaires fausses concernant les anges. Je me suis souvent demandé pourquoi un Dieu tout-puissant et omniprésent aurait besoin ou voudrait utiliser des anges pour faire quelque chose qu'il ne serait très capable de faire lui-même. Certainement, celui qui est devenu Jésus-Christ et que nous voyons manifesté dans l'Ancien Testament est tout à fait capable d'accomplir toutes les choses que les anges font. Nous voyons un exemple de Jésus-Christ dans sa forme préincarnée avec l'exemple de sa visite à Abraham et à Sarah, quand il a annoncé la naissance de leur futur enfant et la destruction prévue de Sodome et Gomorre. Certains athées ont fait valoir que le monothéisme exige qu'il y ait des anges, que les anges ont des ailes, parce que les hommes ont imaginé que celles-ci soient nécessaires pour communiquer entre Dieu au ciel et l'homme sur la terre. En fait, en 787 après Jésus-Christ, lors du deuxième concile de Nicée, l'Église catholique a officiellement permis la création d'images d'anges. Et depuis cette époque, jusqu'à aujourd'hui, il semble que toutes les représentations possibles des anges aient été inventées. Depuis les grandes créatures ailées jusqu'aux peintres de la Renaissance, qui ont représenté les anges comme des petits enfants. Bien aussi, il y a des anges dans le 19e siècle qui ont l'air comme des frêles figures féminines. Donc il y a toutes sortes d'images. Tout cela ne fait que confirmer les malheureusement idées fausses, le manque d'attention et la diversité d'opinion que les gens qu'ils prétendent croire en Dieu ont sur les anges. En étudiant ce sujet, je me suis rendu compte que j'avais moi-même des idées un peu faussées sur les anges. Et j'espère que pendant ce sermon, certaines de vos opinions seront remises en question par la Bible. Et aussi, je pense que nous pouvons mieux comprendre la puissance de Dieu par l'étude du rôle des anges. Donc, aujourd'hui, notre sujet, c'est bien sûr les anges. J'aimerais nous faire prendre davantage conscience des anges en examinant leur rôle et ce qu'ils nous révèlent sur Dieu et son plan. Plus précisément, j'aimerais partager trois points. Premièrement, les anges peuvent nous aider à comprendre l'amour de Dieu envers nous. Deuxièmement, les anges peuvent nous aider à comprendre l'immensité du royaume spirituel de Dieu. Et troisièmement, les anges peuvent nous aider à comprendre notre avenir dans la création de Dieu. À la fin de ce sermon, j'espère que nous apprécierons mieux la nature génial de plan de Dieu pour nous. Le titre du message d'aujourd'hui est « Les anges et la puissance de Dieu ». Les anges et la puissance de Dieu. Voilà, on peut commencer aujourd'hui avec ce sujet, avec notre premier point. Les anges peuvent nous aider à comprendre l'amour de Dieu envers nous. Ça, c'est notre premier point. Le premier point. Commençons en nous reportant à Hébreux 1 et verset 14. Hébreux 1, verset 14, et lisons ce que Dieu dit au sujet du rôle des anges dans la création de Dieu. Donc, Hébreux 1 et verset 14, et on peut lire ce passage. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter de salut. Le mot ministère, dans ce verset, signifie servir. Et donc les anges sont envoyés pour servir. Et ce verset indique clairement qu'ils ont été envoyés pour servir ceux qui hériteront du salut. Il y a un lien clair avec nous comme prémisse, mais je pense que le verset ne restreint pas le service aux prémices. Je pense que le verset est beaucoup plus universel en termes de service. À tous les peuples, qu'ils soient appelés maintenant ou dans le futur. Les anges nous protègent du mal et des accidents. Et Dieu nous encourage et nous inspire par le déploiement de cette force angélique. Angélique. Ce déploiement est une façon pour lui d'exprimer son amour pour nous. Vous n'avez pas besoin de vous y reporter, mais dans Matthieu 26, verset 53, Jésus dit à Pierre de poser son épée, parce que s'il l'avait voulu, Jésus aurait pu prier le Père et demander 12 légions d'anges. La Bible d'étude des contextes culturels de la nouvelle version internationale de la Bible en anglais souligne, et je cite maintenant, toute la province de Romains, de Syrie, qui comprenait la Judée, n'avait normalement que 3 légions en tout. 3 légions en tout. Ainsi, Jésus aurait pu faire appel à une force écrasante qui aurait été plus nombreuse que les Romains. Et bien sûr, ces légions auraient été des légions d'esprit beaucoup plus puissantes que les Romains. Nous voyons dans Matthieu 4, verset 1, et encore une fois, vous n'avez pas besoin de vous y reporter, mais dans Matthieu 4, verset 1, Lorsque Jésus a eu faim, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il a été confronté au diable. Il a été servi ou soigné par des anges. Il est fort probable que les anges lui ont apporté de la nourriture et de l'eau. Mais reportez-vous, s'il vous plaît, à Acte 12. Acte 12 et verset 5. Et voyant l'histoire d'une intervention dramatique et qui témoigne de l'intention de Dieu par l'envoi d'un ange pour sauver Pierre de la mort. Donc, Acte 12 et verset 5. Ici, donc Acte 12 et verset 5. Et voyons d'abord le contexte. Le contexte de l'histoire en Acte 12 et verset 1 à 4. Donc, lisons ces versets. Donc, Acte 12 et verset 1. Il dit, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir sasié et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 échouades et de 4 soldats, chacune avec l'intention de la faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Ainsi, le contexte de cette histoire est que Dieu a permis que l'apôtre Jacques soit tué. Dans l'histoire de l'Église du Nouveau Testament, cela aurait été l'un des moments les plus bas. Vous pouvez imaginer que si l'un de nos dirigeants de l'Église aujourd'hui était arrêté illégalement et ensuite exécuté par l'État, cela pourrait conclure une crise, cela pourrait conduire à une crise de la foi. Dans ce cas, après que Jacques a été tué, Hérode a réalisé que c'était en effet un bon geste politique. Par conséquent, il a décidé d'arrêter Pierre. Et au verset 4, nous avons la forte impression qu'il avait l'intention d'exécuter Pierre aussi. Mais il attendait jusqu'après les jours saints de printemps, les jours de pain sans levain. Maintenant, continuerons au verset 5. Au verset 5 maintenant. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Donc, ça c'était une grande épreuve sévère pour l'Église qui a donc réagi avec une plus grande dévotion et intensité de prière afin que Dieu sauve Pierre. Et nous verrons au verset 6 que Dieu a entendu jusqu'à la nuit même avant que Pierre ne soit jugé pour accomplir l'un des grands miracles de la Bible. Alors, maintenant, lisez l'intervention d'un ange en Acte 12 et verset 6 à 10 maintenant. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître Pierre, lié de deux chaînes, dormé entre deux soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveillait Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, invoque-toi de ton manteau et suis-moi. Et Pierre, verset 9, sortit et le suivit, ne sachant que ce qui se faisait par l'ange était réel ou s'imaginant avoir une vision. Verset 10. Lorsqu'il repassait le premier garde, puis le second, ils arrivèrent à la porte du fer qui mène à la ville et qui s'ouvre d'elle-même. Devant eux, ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Incroyable! Il a dit au verset 9 que Pierre ne savait pas que ce qui se passait avec l'ange était réel. Et je pense que si ça nous arrivait, on pourrait dire la même chose. Il pensait vraiment que c'était juste un rêve. Ce type d'histoire sort tout droit d'un film de Star Wars ou d'un film de science-fiction. Imaginez que les chaînes tombent du corps de Pierre, que les gardes ne se réveillaient pas, que les portes soient ouvrir toutes seules et ils ont passé invisiblement devant les gardes. C'est vraiment comme du Star Wars. Considérez le grand choc de l'exécution de Jacques et maintenant, quelle histoire étonnante, celle de la libération de Pierre. Tellement miraculeux qu'il y avait vraiment de l'humeur, de l'humeur dans les versets suivants, du verset 11 au verset 15. Donc, continuez à verset 11, s'il vous plaît. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Verset 12. « Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule, et une servante nommée Hérode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, « Tu es folle !» Mais elle affirma que les choses étaient ainsi. Et ils dirent, « C'est son ange !» Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de voir. Il y a de l'humeur ici. L'humeur, mais il y a aussi quelque chose d'intéressant, ce que nos ancêtres spirituels pensaient concernant les anges. Il est dit au verset 16, c'est son ange, c'est son ange. Avons-nous chacun un ange? C'est ce qu'ils pensaient à l'époque. Au minimum, ils ont pensé que c'était une intervention de la part des anges, mais pas assez pour croire que Pierre pourrait être à la porte. Finissons l'histoire dans le reste de verset 16, comme j'ai lu. Cependant, il dit, Pierre continuait à frapper, il ouvre et furent étonnés de la voir. Et la conséquence que nous avons lu, c'est que les gardes et les soldats ont été exécutés pour ne pas avoir pu garder l'apôtre Pierre. Je dois dire, entre parenthèses ici, que nous devons aussi être reconnaissants pour l'espérance de la seconde résurrection, ou la deuxième résurrection, pour des gens comme ces pauvres gardiens dans cette histoire. Ils n'ont rien fait de mal. ils ont souffert à cause de cette histoire miraculeuse, encourageante de Dieu, a un plan pour eux aussi. Donc, les gardiens même vont avoir une chance dans le royaume de Dieu. Et puis, au verset 23, regardez verset 23, nous voyons que c'est un ange qui frappe Hérode pour son péché aussi. Donc, on peut lire ça dans verset 3. Au même instant, il dit, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et expira rongé de vers. En résumé donc, ce qui commence par ce qui semble être un bon coup politique de la part d'Hérode au début du chapitre 12 se termine par sa mort et l'un des grands miracles de l'Église primitive comme nous le voyons à la conclusion du chapitre. Je voudrais conclure ce point par les questions de savoir pourquoi Pierre a été sauvé et non Jacques. Pourquoi Dieu intervient-il pour certains et pas pour d'autres? En considérant ce point, je voudrais partager l'histoire d'un autre miracle. C'est une histoire de quelqu'un à Bordeaux lors de la fête de l'année dernière. J'ai parlé avec mon neveu, je sais probablement à Bordeaux à cet instant, mais en France, et il partageait une expérience qu'il a vécue il y a quelques années. L'événement qu'il décrit s'est produit 3 jours après qu'un autre membre de l'Église a été tué dans un accident de voiture. Alors que mon neveu conduisait et approchait un virage, il a vu une autre voiture qui s'approchait dans le virage et a heurté quelque chose qui a fait que la voiture a perdu le contrôle et a volé dans les airs juste devant lui. La mort de son ami proche dans l'église, 3 jours plus tôt, était dans son esprit. Elle a freiné. Et il a réalisé que la voiture qui volait dans les airs venait droit sur lui. Et à ce moment, il a réalisé qu'il allait mourir ou être sérieusement blessé. Mais instantanément, la voiture a touché le sol juste devant lui et a rebondi directement au-dessus de sa voiture. Et dans la direction qui était complètement contraire à l'élan qui avait pris la voiture en pendant le contrôle. La voiture rebondit encore une autre fois, mais juste derrière sa voiture. Il a donc été sauvé. La personne qui conduise l'autre voiture a atterri dans une fossé, il a arrêté sa voiture pour aller la voir. Elle était étourdie, mais n'était pas blessée, et lui était abasourdi pour la nature surréaliste de ce miracle. Et jusqu'à ce moment, il se demande pourquoi Dieu a épargné sa vie et pas celle de son meilleur ami. Je sais que les circonstances ne sont pas les mêmes, mais je suis sûr que Pierre s'est demandé pourquoi elle a été sauvée et pas Jacques. En effet, parfois Dieu n'intervient pas. Et je pense que cela fait partie du fait que nous devons faire confiance en Dieu et savoir qu'il nous amène, pourquoi il arrive. Dieu a ses desseins et ses plans en tête et nous ne pouvons pas toujours connaître les plans à long terme. De tous les exemples d'intervention angélique dans la Bible, nous ne voyons jamais un ange questionner Dieu. Les anges sont alignés à 100% avec les plans de Dieu. Ce sont des messagers et des esprits tutélaires. Nous aussi, nous devons être alignés à 100% et avoir confiance que Dieu a notre meilleur intérêt à l'esprit quand il choisit d'intervenir ou de ne pas intervenir. Les anges sont des êtres puissants et nous pouvons être encouragés par le fait que Dieu a des anges à sa disposition pour communiquer avec nous, nous guider, et nous protéger. Les anges nous aident à comprendre l'amour de Dieu et à prendre soin de nous. Voilà, passons à notre deuxième point. Notre deuxième point maintenant, c'est que les anges peuvent nous aider à comprendre l'immensité du royaume spirituel de Dieu. Dans les cercles scientifiques, on discute régulièrement de la question de savoir si nous sommes seuls dans l'univers. J'ai parlé dans des sermons passés de paradoxe de Fermi, qui demande pourquoi, si l'univers est si plein d'étoiles, des planètes, nous n'avons pas encore rencontré des extraterrestres. Après 50 ans de recherche de la vie dans l'univers, nous, les humains, ne sommes pas plus près de découvrir la vie en dehors de cette planète. Dans l'Église, nous avons enseigné qu'il y a très peu probable qu'il y avait d'autres êtres physiques en dehors de la planète Terre, car cela serait incompatible avec la signification du sacrifice de Jésus-Christ pour toute l'humanité. Cependant, nous ne devrions pas confondre le manque de vie physique en dehors de cette planète avec le manque de vie spirituelle. L'univers est plein de vie spirituelle, Retournons à Daniel 7, versets 9 à 10. Et lisons la vision que Daniel a de la salle du trône de l'univers et comment elle est assistée par 100 millions d'anges. Daniel 7, versets 9 à 10. Il dit, « Je regarde pendant que l'homme placé du trône et l'ancien de jour s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les chevaux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et ses roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient à sa présence. La juge s'assire et les livres furent ouverts. » Daniel décrit le nombre d'anges ici comme étaient 1000. 1000 et 10 000 fois 10 000 et que seraient 100 millions. Mais mon point de vue sur ce nombre est que Daniel essaie de décrire un très, très, très grand nombre d'anges. J'ai rencontré cette histoire en 2016 dans un sermon, mais à la fin des années 1930, on a demandé à un mathématicien de l'université aux États-Unis, Edward Kasner, de trouver un nom pour un nombre extraordinairement grand. Un nom pour un nombre très, très, très grand. Le très grand nombre était dit à la centième puissance, ou 1 avec 100 zéros après. L'histoire est qu'un jour, au cours d'une promenade, il a demandé à son neveu de 9 ans qui lui a suggéré un nom pour ce chiffre. Et ce nom est maintenant connu par probablement tous les habitants de cette planète. Il a suggéré le nom Google. C'est vrai que le nom Google a apparemment été choisi par un petit garçon de 9 ans. Le Dr. Kasner a ensuite créé, à partir de cela, le concept d'un Google. Un Googleplex qui est un Google à la puissance d'un Google. Donc c'est un grand, grand nom, un chiffre. Selon le regretté Dr. Carl Sagan, si vous essayez d'écrire un Googleplex sur un morceau de papier, vous savez que vous commencez par écrire un chef 1 ici, et après un 0, un 0, un 0, etc., etc. Et continuez ensuite à écrire des 0 jusqu'à ce que vous atteigniez la fin du chiffre, le papier sur lequel vous écrivez le chiffre ne logerait pas dans l'univers connu. Imaginez, c'est un grand, grand, grand nombre. Si nous pensons à l'immensité de l'univers et réalisons que Dieu n'est pas contrainte par le temps et l'espace, alors un Googleplex d'ange n'est pas hors de possible. Ces concepts me sont difficiles à saisir. L'homme qui essaye de comprendre la totalité de Dieu est comme une fourmi qui essaye de comprendre que les humains peuvent voler en avion. Les deux entités sont juste dans des dimensions différentes. Le nom même de Dieu inclut ce vaste groupe d'êtres angéliques. Le nom même de Dieu, qui est utilisé encore et encore dans les Écritures, dans la Bible, est Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth, c'est le nom en hébreu, qui se traduit en français par l'Éternel des armées. Vous pouvez écrire deux références bibliques ici, car nous pouvons voir ce terme utilisé dans le Nouveau Testament, dans Romains 9 et verset 29, Romains 9 et 29, et Jacques 5 et verset 4, Yahweh Sabaoth, l'Éternel des armées. Mais reportez-vous s'il vous plaît à Apocalypse 4 et verset 2, et voyant une autre vision du trône de Dieu et du monde angélique qui l'entoure. Cette deuxième description nous donne un aperçu de la diversité de la création angélique de Dieu. Apocalypse 4. Apocalypse 4, Apocalypse 4 et verset 2. Il dit, « Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'un pierre, de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. » Donc, voilà, c'est vailleurs. Et il décrit la situation devant ce trône ici. Ainsi, nous comprenons à partir de ce verset qu'il y a 24 êtres angéliques sur des trônes autour du trône de Dieu. Mais il y a aussi d'autres êtres. Continuons au verset 5, ici, au verset 5. Du trône sort des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent sept lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu. Les sept esprits de Dieu. Donc ça c'est aussi, il y a en plus des 24 veillards, il y a également sept êtres angéliques. Et maintenant, remarquez le verset 6 qui montre qu'il y a encore d'autres êtres qui y sont également ici. Donc maintenant, pour continuer verset 6, il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semble du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants remplis de devant et derrière. Une autre sorte d'être. Il y a donc aussi ces quatre êtres vivants. Nous voyons au verset 8 que ces quatre êtres vivants ont chacun six ailes. Ce qui pourrait signifier qu'ils sont un type de séraphin décrit dans Isaïe 6. En plus de 24 veillards, de 7 esprits et de 4 êtres vivants, nous pouvons aussi voir dans Ézéchiel 1 et Ézéchiel 10 la description d'anges appelés les chérubines, qui ont 4 ailes et des mains sous les ailes. Nous savons aussi qu'il y a des anges très puissants qui sont nommés dans la Bible. L'un s'appelle Michaël et un autre Gabriel. Bien sûr, il y avait un troisième, Lucifer, qui devenait Satan. Nous savons aussi que la grande majorité du temps où nous voyons des anges décrits dans la Bible, ils sont décrits simplement comme des hommes, sans ailes, ou l'un des questions spéciales qui sont différents de nous. C'est juste comme des hommes. Je pense qu'après avoir lu ces passages, nous pouvons commencer à nous faire une idée de la diversité, de l'immensité et de plénitude du monde angélique de Dieu. Si jamais vous vous sentez seul, j'espère que vous pourriez revenir à ces versets et réaliser que l'univers n'est pas seulement rempli de la présence de Dieu, mais qu'il est rempli des représentants de Dieu aussi comme des anges. Dans 2 Rois 6, verset 17, on nous raconte comment Élisée a ouvert les yeux de son serviteur pour qu'il voie la vaste armée spirituelle qui les protégerait des messagers du roi de Syrie. Je prie pour que même si nos yeux ne peuvent pas voir physiquement ces hôtes angéliques en ce moment, nous sachions qu'ils sont présents quand même. Présent pour reconforter, présent pour servir, présent pour faire la volonté de Dieu. Dieu a un vaste royaume spirituel et des serviteurs spirituels à sa disposition pour exécuter sa volonté. L'étude de ces hôtes angéliques nous aide à comprendre la puissance de Dieu et comment il choisit d'exécuter sa puissance. Passons maintenant à notre troisième point. Les anges peuvent nous aider à comprendre notre avenir dans cette création de Dieu, dans la création maintenant et le royaume à venir. Donc reportez-vous s'il vous plaît à Hébreux 2 et verset 5. Hébreux chapitre 2 et verset 5. Hébreux 2, verset 5, j'ai décrit dans l'introduction le fait que les êtres humains ont depuis longtemps réalisé une certaine présence spirituelle en temps de détresse. Cette expérience est commune aux gens du monde entier et nous avons lu plus tôt l'histoire dans Actes 12, comment l'existence et l'intervention des anges étaient quelque chose qui était top dans l'esprit des membres de l'Église du premier siècle. De plus, nous avons lu à propos de l'immensité et de la diversité de ce royaume angélique. Malheureusement, sachant cela, certains au premier siècle et beaucoup dans le monde d'aujourd'hui ont mis l'accent sur le pouvoir des anges et négligeant de considérer l'origine de leur pouvoir. Et ne voient pas l'image le plus large dans laquelle l'homme s'intègre. Par exemple, Paul a mis en garde l'Église dans Colossiens 2, verset 18, contre l'adoration des anges. Les deux premiers chapitres des Hébreux abordent la question de notre place dans la création et le rôle de Jésus-Christ vis-à-vis du rôle des anges. Donc, lisons Hébreux 2, verset 5 maintenant, pour comprendre ce que Dieu veut que nous sachions sur notre destinée vis-à-vis des anges. Il dit, en effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dans nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part de ces témoignages. Donc, assez puissants que soient ces êtres, on nous dit qu'ils ne régénéreront pas dans le monde à venir. Continuons au verset 6, comme j'ai mentionné. Versets 6 à 8, il dit, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, tu l'as couronné de gloire et de l'honneur. Tu as mis toutes choses sur ses pieds. » Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Imaginez, ça c'est notre situation maintenant. Ça c'est notre situation vis-à-vis les anges. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soit soumise. Notre place dans le plan de Dieu sera de régner sur ces puissantes créatures. Imaginez, on peut continuer à verset 8, en effet, en lui soumettre toutes choses. Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Certains ont spéculé que ce plan pourrait même avoir contribué à la rébellion de Satan. Il aurait pu être très contrarié en réalisant que des êtres faibles et physiques comme nous seraient finalement au-dessus de lui. Ces versets disent aussi que nous avons été créés un peu plus bas que les anges. Nous savons, d'après Genèse 1, que nous avons été créés à l'image de Dieu. Mais je ne pense pas que cela signifie que les anges n'ont pas de personnalité. Je ne pense pas que cela signifie qu'ils n'ont pas de qualité unique qui les distinguerait les uns des autres. Donc, je crois que chaque ange a une personnalité quand même. Par exemple, dans Apocalypse 12, il nous est dit qu'un tiers des anges se sont rebellés. Cela signifie que les anges ont le libre arbitre pour prendre leurs propres décisions. En outre, dans Job 38, verset 7, il est dit que les anges ont chanté de joie à la création de l'univers, ce qui signifie qu'ils ont éprouvant des émotions aussi. Enfin, dans Ézéchiel 28, verset 17, Ézéchiel nous dit que Lucifer a été corrompu par la sagesse qu'il possédait, ce qui signifie que les anges ont de l'intelligence. Donc, les anges ont le libre arbitre, ils ont des émotions, ils ont d'intellect, ce qui signifie qu'ils sont très conscients de notre avenir et de leur avenir aussi. Et pourtant, les trois tiers d'être eux ont accepté de suivre Dieu et ont confiance qu'il a leurs intérêts à cœur. Je crois que le monde angélique reflète la beauté et la créativité de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, et que ces êtres ont dû qualité unique, distincte, en tant qu'être individuel. Finissons le pensée ici, dans Hébreux 2 et verset 9 maintenant. Hébreux 2, verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour nous tous. Voilà, le Créateur des anges, Jésus-Christ, a été fait plus bas que les anges, afin de pouvoir nous sauver, nous, sa création humaine. Continuons au verset 10. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, et élevé à la perfection par les souffrances de le prince de leur salut. Et verset 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'y a pas honte de les appeler frères. Et nous sommes les frères de notre frère aîné, Jésus-Christ, qui ont un avenir glorieux et encourageant. Et pour terminer la réflexion au verset 16 à 18, lisons cette dernière série des versets. Verset 16 dit, « Car, assurément, ce n'est pas à des anges qu'ils viennent en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semble en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Quand nous pouvons imaginer le but impressionnant du royaume angélique, je pense qu'un enseignement comme celle-ci peut être très, très encourageant pour montrer quel genre de puissance impressionnante d'avenir nous avons dans le plan de Dieu. Nous devons comprendre notre place dans la création par rapport aux anges. On peut comprendre cette grande promesse pour nous. Concluons-nous, tournons vers le dernier chapitre des Hébreux, dans Hébreux chapitre 13 et verset 2. Chapitre 13, verset 2 dit « N'oubliez pas l'hospitalité, car en exerçant quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Nous pouvons étudier les anges et à être étonnés de leur puissance. Mais en fin de compte, ce qui importe, c'est que nous mettions l'accent sur le fait de suivre la volonté de Dieu. Et ce faisant, je trouve étonnant qu'au moment où le livre des Hébreux conclut la discussion sur les anges, je commence au chapitre 1 et continue au chapitre 13, sur les anges, l'auteur nous donne une simple leçon sur l'hospitalité, et même l'hospitalité envers les étrangers. Je pense que notre compréhension de Dieu est rendue plus complète et plus personnelle lorsque nous étudions et pensons au domaine des anges. Nous pouvons être encouragés par le fait que même si nous ne voyons pas Dieu, nous pouvons savoir qu'il prend soin de nous par l'intermédiaire de ses serviteurs, les anges. Soyons encouragés par le fait que Dieu dirige les anges pour agir dans notre vie et dans celle des autres. Merci et bon sabbat.